Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. À nouveau ensemble pour la suite du roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre. Le français d'Ali est des plus sommaires, et Claude, malgré toute sa bonne volonté, n'est jamais parvenu à maîtriser ni le kabyle ni l'arabe. Il tord quelques mots entre ses lèvres maladroites de temps à autre, et Ali cache son amusement en hochant la tête d'un air concentré. Les deux hommes ne parlent pas vraiment entre eux. Au départ, cela créait un malaise. Claude ne savait pas trop quoi faire de cet immense kabyle planté au milieu de sa boutique qui ne comprenait visiblement pas ses questions, ni d'ailleurs les réponses que le malaise le poussait à faire aussitôt. Il menait à lui seul un dialogue précipité, cédant beaucoup des mains, des clins d'œil, de sourires. Le jour où Ali est venu avec Hamid, Claude a oublié sa gêne. Le garçon paraissait minuscule dans les gros bras de l'homme de la montagne. Claude a cru voir en Ali une tendresse paternelle qui défiait la virilité traditionnelle. Cet ensemble de codes qui détermine ce que doit être un homme dans les villages de là-haut, ce règlement qui n'est publié nulle part où Claude pourrait le lire et qui le fascine autant qu'il l'effraie. Il s'est reconnu en l'autre. Lui qui est un père transi d'amour. Claude est veuf depuis 4 ans. Sa femme est morte en donnant naissance à leur seul enfant. Un portrait d'elle trône en évidence sur un des murs de la boutique. L'immuabilité de son air sévère contraste avec l'émotion qui alourdit les yeux de Claude quand il la regarde. Annie, la fille de l'épicier, est un peu plus âgée que Hamid. Lorsqu'ils sont ensemble, les deux enfants gazouillent en chœur dans une langue qui n'existe pas, et Claude rêve alors à ce qu'aurait pu être sa maison s'il n'avait pas perdu sa femme trop tôt et si tous les deux, il l'avait remplie d'enfants qui leur auraient ressemblé. Parfois, Ali laisse son fils à Claude lorsqu'il va à l'association. Et celui-ci le fait asseoir sur le comptoir où Hamid reste souriant comme un Bouddha, jusqu'à ce qu'Annie réclame qu'il vienne jouer avec elle. Ali n'a jamais pu parler avec l'épicier de la situation, mais il le plaint de n'avoir qu'une fille. Alors, dans un geste de générosité que son interlocuteur ne comprend peut-être pas, il lui prête son fils. Dans la gueule rougeoyante du four en terre, Yema cuit la kessra, la galette de pain, pour toute la famille. Hamid bat des mains comme chaque fois que la maison se remplit de cette odeur pleine et chaude. Depuis qu'il a cessé d'être nourri au sein de sa mère, il mange à grosses bouchées, se barbouille d'huile d'olive et, en présence de nourriture, il rit toujours de joie. Sa mère lui répète qu'il est beau, qu'il est son soleil, sa lumière, sa petite perdrix. Il rit plus fort. Ali fume une cigarette en observant sa femme et son fils du coin de l'œil. Il voudrait aussi pouvoir regarder à l'intérieur des corps et apercevoir l'enfant qui naîtra très bientôt et qui arrondit le ventre de Yema, tend le tissu de sa robe et l'oblige à nouer trop bas le pagne rayé sur lequel elle trébuche de temps à autre en soupirant gentiment, comme si le pagne était un enfant qui lui jouait sans cesse le même tour et qu'elle n'arrivait plus à s'en amuser. Ali souhaite que ce soit encore un garçon. Un seul, ce n'est pas assez, ça peut mal tourner, ou pire. c'est tellement fragile. L'homme qui n'a qu'un fils marche sur une jambe. Les femmes de ses frères lui assurent qu'à la forme du ventre, elles peuvent prédire que ce sera une fille. Il sera bientôt fixé, de toute façon, le ventre de Yema pèse déjà si lourd qu'elle l'appuie dès qu'elle peut sur la table. Le petit Omar entre en courant dans la maison. « Mon oncle, dépêche-toi ! Tout le village doit se rassembler sur la place pour écouter le caïd. » Surpris, Ali écrase précipitamment sa cigarette. Le caïd ne vient pas souvent ici. Il préfère rester dans sa grande maison plus bas dans la vallée et faire se déplacer les autres. Comme la plupart de ses pairs, il contrôle le douar de l'extérieur, se reposant sur les rapports des amines et des gardes champêtres pour prendre le pouls du territoire qu'un fonctionnaire français lui a confié. Ou plutôt loué, puisqu'il se dit ici que le caïd a payé cher sa charge de commissaire rural. Une note gouvernementale de 1954 rappelle qu'il a pour fonction d'informer, de surveiller et de prévoir. Du point de vue des villageois, il aurait plutôt tendance à punir et à voler, toujours par intermédiaire. On le voit peu, mais on l'aime encore moins. Et on prétend que lui n'aime personne, seulement l'or et le miel. Ali non plus n'apprécie pas cet homme, mais il sait ce qu'il lui doit. Jamais il n'aurait pu développer son exploitation si le caïd s'y était opposé, et jamais celui-ci n'aurait donné son accord s'il ne s'était pas trouvé que sa femme était une lointaine cousine d'Ali. Il l'a laissé racheter des parcelles là-haut sur la montagne dans un endroit qui ne l'intéresse pas parce que la fortune providentielle de cet homme qui fait vaguement, si vaguement, partie de la famille lui permettait de contrecarrer les ambitions des Amrouches trop longtemps sans rivaux sur les sommets oubliés. Désormais, le caïd maintient un équilibre en répartissant faveurs et impôts entre les deux familles sans avoir besoin de s'infliger une pénible escalade. Il n'y a que les jeeps des militaires français qui supportent sans ahaner l'ascension sur la montagne. En échange, Ali lui donne parfois, quand la récolte le permet, un peu plus que ce qui est demandé et Yema prépare pour lui des pâtisseries ruisselantes à chaque grande occasion. Omar trépigne à la porte. Il a déjà prévenu son père et Jamel. Pas l'aîné en premier, note Ali, en se disant que le garçon est décidément mal élevé. Et ceux-ci attendent dehors qu'ils se rendent ensemble, lentement, majestueusement, comme le veut leur statut et comme l'exige leur corpulence, jusqu'à la place du village. Ali prend sa canne à pommeau d'ivoire. Il n'en a pas besoin, mais elle lui donne de la prestance. Il hésite à passer son uniforme militaire pour envoyer au caïd le signe qu'il n'est pas juste un paysan enrichi, mais ces derniers temps, il a du mal à fermer la veste sur son ventre et l'héroïsme se perdrait si l'un des boutons venait à sauter. Les trois frères arrivent sur la place où l'on s'écarte pour leur laisser un accès au premier rang. Ils prennent position d'un côté du cercle à l'opposé des Amrouches qu'ils saluent d'un hochement de tête pondéré. En face, ceux-ci font de même. Le caïd ne sort de son véhicule que lorsque tout le monde est rassemblé comme un acteur qui sur un tournage s'enfermerait dans sa loge jusqu'à ce que l'on n'attende plus que lui. Sa richesse se montre parfaitement localisée dans son ventre énorme et rond, qu'on dirait postiche, sur ce corps que la vieillesse a asséché partout ailleurs et qui l'oblige à se tenir renversé en arrière pour ne pas laisser le poids de sa bedaine le faire ployer vers la terre. Le caïd dispose de nombreuses aides et domestiques, mais rien, ni personne, ne peut empêcher que chaque pas soit un combat entre lui et son ventre. Et cela le met toujours de mauvaise humeur. En tant que caïd de ce village, dit le caïd, ce qui suscite d'emblée les murmures moqueurs ou courroucés des habitants, il est de mon devoir de vous mettre en garde contre des événements qui se sont produits dans la région et dont vous avez peut-être entendu parler. Mon poste important dans l'administration me permet d'être particulièrement bien informé, alors je vous demande d'avoir confiance en moi et en ce que je vais vous dire. Des fermes ont été pillées et brûlées. Des ponts ont été détruits. Ces fermes, elles donnaient du travail à des fellahs. Ces ponts, ils leur permettaient de se rendre à leur travail. Maintenant, il y a des familles dans la pauvreté qui ne comprennent pas pourquoi et qu'on prétend nourrir avec des tracts. Les hommes qui ont commis ces actions sont des bandits, des repris de justice auprès desquels la police court déjà. Dans quelques semaines, quelques mois tout au plus, ils seront arrêtés et jetés en prison où ils finiront leur vie. S'ils croisaient votre chemin, vous ne devez en aucun cas les aider, les nourrir ou les cacher. Ils sont dangereux et peuvent vous faire beaucoup de mal. Ces hommes sans honneur tuent des femmes et des enfants. Certains d'entre eux vous raconteront peut-être qu'ils sont des moudjahidines et qu'ils combattent pour l'indépendance de notre pays. Ne les croyez pas. Ils ne connaissent rien à l'Algérie. Ils sont manipulés par les communistes de Russie et par l'Égypte. Ce sont des traîtres, prêts à aider des étrangers à entrer chez nous sous prétexte de combattre les Français. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Les communistes seront pires que les Français. Ils prendront le peu que les Roumis vous ont laissé parce qu'ils ne croient pas à la propriété. Ils ne croient pas non plus à la religion. Ils voudront vous enlever l'islam. Là-bas, en Russie, ils ont détruit des églises. Ils feront la même chose ici avec les mosquées. Et surtout, je vous le dis, si vous prêtez assistance à ces hors-la-loi, personne ne pourra vous protéger des représailles de l'armée française. Ce village sera à nouveau Sétif. Le caïd sait lui aussi que ce nom est celui d'un ogre terrifiant. Il n'hésite pas à l'utiliser. Et imperceptiblement, les têtes des villageois rentrent dans leurs épaules, les dos se courbent, pour laisser passer les fantômes que charrient ces deux syllabes. La France vous punira, assène le caïd en frappant du pied sur le sol, et les bandits qui ont attiré la foudre sur vous se replieront tranquillement dans le maquis où ils sont cachés, comme les criminels qu'ils sont, et ils vous laisseront payer pour eux. En tant que caïd, je me suis engagé en votre nom auprès de l'administration française. J'ai promis qu'il n'y aurait pas de trouble, que nous étions des hommes d'ordre et d'honneur, pas des bandits. J'ai réussi à empêcher que l'armée ne monte jusqu'à chez vous pour inspecter les maisons. Ici, bien sûr, le caïd ment. L'armée française n'a jamais pensé à venir au village. À des kilomètres de Dra el-Mizan ou de Bortchmenaïl, où les attentats ont eu lieu. Mais il aime, puisque l'histoire cette fois lui en donne l'occasion, jouer les héros et prétendre qu'il défend ce peuple qui lui paie impôts et amendes depuis des années. Mais je ne pourrai pas vous protéger toujours, alors écoutez-moi, ne prêtez pas vos oreilles à la propagande des bandits, protégez-vous vous-même.
Regain your balance. Doesn't matter where she is tonight, or with whoever she spends her time. If these arms were meant to hold her, they were never meant to pull her so tight. For the love of that girl greets a god now, the panic subsides. When I could run, pull an arms full of her, try to put myself on the inside. If the love of that girl tears sway, you don't know why. For the love of that girl can never fall, it can never run dry. For the love of that girl,
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Alice Zénitaire, l'art de perdre. À son départ, le cercle se divise. Les amis, partisans et obligés des Amourouches se regroupent autour de ceux-ci. Les amis, partisans et obligés d'Ali et ses frères se pressent autour d'eux. Entre les deux foules restent des hommes dont la loyauté n'est engagée nulle part. Soit, fait rarissime, qu'ils s'entendent bien avec les deux familles, soit qu'ils se soient brouillés avec les deux. Les villageois débattent des propos du caïd, ce chien vénal et vaniteux. Comme les Amourouches connaissent le lien familial, si vague, si ténu, qu'Ali possède avec ce dernier, ils partent du principe que tout le discours est un mensonge. Comme Ali sait que les Amrouches vont attaquer le discours, il se sent obligé de le défendre. Des années plus tard, Naïma se demandera s'il a réalisé les conséquences immenses et désastreuses provoquées par cette rivalité automatique, et s'il lui est arrivé de rejouer cette scène en adoptant un point de vue différent, ou s'il est toujours resté englué dans le Mektoub et dans le Nif, comme dans une indestructible toile d'araignée. Ce que veut Ali pour l'instant, c'est la conservation de ce qu'il a acquis. Le futur ne l'intéresse que s'il est un présent étendu. Ali porte à bout de bras son monde, sa famille, son exploitation, en retenant son souffle pour que rien ne se renverse, que rien ne bouge. Il a réussi à faire de sa maison pauvre une maison pleine, et il souhaite que cela dure éternellement. Au-delà des limites de son domaine, le monde paraît trop flou pour qu'il puisse faire des vœux en son nom. Il lui est arrivé de rêver que sa maison pleine puisse se retrouver dans un pays indépendant. Et la manière dont il imagine cet événement ressemble, bien qu'il n'en sache rien, au voyage magique de Dorothée lorsque la tornade les emporte, elle et la ferme familiale, jusqu'au pays d'Oz. C'est-à-dire un pays dans lequel il n'est plus jamais à se lever et à saluer chaque roumi qui passe. C'est-à-dire moins un pays indépendant qu'un pays dans lequel lui-même soit libre. C'est-à-dire qu'encore une fois, le rêve d'Ali n'excède pas les limites de son univers immédiat. Ce qui arrive sur la crête est plus important que tout et demande à être protégé. Il ne faut pas que les soldats français montent jusqu'ici et arrache aux montagnards le peu qu'ils possèdent, le bonheur apporté par le torrent. C'est parce que les Français sont détestables ou terrifiants, en d'autres termes, qu'il est si nécessaire de les rassurer. « Vous croyez qu'ils vont rattraper des maquisards ?» demande quelqu'un. « Bien sûr que oui, » répond Ali sans hésiter. Il a combattu dans l'armée française. Il l'a vu gagner des batailles impossibles. Ce n'est pas une poignée de rebelles qui pourra la défaire. Comme chaque fois qu'il repense à ce qui est arrivé là-bas en Europe, des ombres passent sur son visage et semblent lui creuser les joues, dessinent 10 expressions qui ne se fixent jamais. Il secoue la tête pour chasser les souvenirs qui s'amassent à l'intérieur et se contente de dire « Ils ne peuvent pas perdre. » Le vieux Rafik, qui a été employé plusieurs années dans les aciéries de la Haute-Marne, acquiesce. « Ils ont des machines qu'on ne connaît même pas, qui fabriquent des métaux qu'on ne connaît même pas. Qu'est-ce qu'elle va faire, la glorieuse armée indépendante algérienne? Ici, on n'a jamais fabriqué ne serait-ce qu'une boîte d'allumettes. » La conversation dure longtemps. Pour contrer l'assurance du caïd, on cite les noms de ceux qui, par le passé, se sont réfugiés dans la montagne et que la France a eu tant de mal à attraper ou sur lesquels elle n'est jamais parvenue à mettre la main. Des vieux parlent d'Areski, le bandit d'honneur de la forêt de Yakouren, le grand du Sébaou, celui que la presse française appela le Robin des Bois kabyle. Il rappelle en riant qu'alors qu'il était recherché depuis des années, il trouva le moyen d'organiser une fête réunissant plus d'un millier de convives pour la circoncision de son fils et que les gendarmes français, prévenus trop tard de ses agapes, arrivèrent au village pour ne trouver personne. « Et puis quoi ?» dit Ali. « Quand même, à la fin, ils l'ont guillotiné. » Le soir tombe et apporte la fraîcheur subite des nuits de montagne. Elle meurt comme une petite créature invisible dans les peaux. Pourtant, Ali pourrait rester là. Il aurait envie qu'on lui dise qu'il a raison, ou même qu'on lui prouve qu'il a raison. Il se sent pour la première fois depuis longtemps mal assuré dans son discours et dans ses opinions. Il continue pourtant, il fait ce qu'il est censé faire, il déclare, il pontifie, il représente. Dans la nuit, après des heures de hurlements, Yema accouche d'une petite fille. L'enfant s'appelle Dalila. La mère l'aime un peu moins qu'elle n'aime Hamid. Son père l'accepte. Quelques années après la mort de sa femme, la sœur de Claude, Michel, est arrivée à Palestro pour l'aider à tenir l'épicerie. On dit aussi qu'elle avait quelques scandales à faire oublier en France et que son départ était moins altruiste que nécessaire. C'est une femme splendide à qui la beauté a donné tant d'assurance que Michel est désormais incapable de voir que ce trait de caractère vient de son physique et de l'effet qu'il produit. Elle pense qu'elle est née sûre d'elle et elle cite pour le prouver son départ précoce de la maison familiale, sa volonté d'obtenir un diplôme, les aventures amoureuses qui ne l'ont jamais asservie. Au sein de la communauté française de la ville, elle est scandaleuse et fascinante. Les hommes de Palestro ne parviennent pas à la décrire. Les adjectifs ne semblent pas pouvoir s'appliquer à elle. Ils disent simplement « elle a des seins, elle a des jambes, elle a une bouche ». Et le silence qui vient après la désignation d'une des parties de son corps est plein de leurs fantasmes plus ou moins secrets, de leur admiration et de leur dépit. Quand Ali entre dans la boutique et qu'elle est au comptoir, il perd instantanément tout usage de la parole. Michel, contrairement aux autres européennes, ne porte ni bas ni collant sur ses jambes dorées. Elle n'oppose pas au regard le sous-vêtement fin comme une peau d'oignon ou une pellicule de sueur. Elle dit qu'il fait bien trop chaud. Et lorsqu'elle se hisse sur le premier ou le deuxième barreau de l'échelle pour éventrer un carton de réserve caché au-dessus des étagères, elle déploie 50 cm de jambes nues à gauche et à droite, c'est-à-dire un bon mètre de peau, si on les mettait bout à bout, et qui sont plus que suffisants pour empêcher Ali de parler. Hamid, en revanche, n'est pas impressionné par Michel. Il s'accroche à ses mollets, tire sur sa jupe, glisse ses mains potelées dans les boucles de ses cheveux. Michel raffole du petit garçon, elle l'embrasse, le caresse. Et quand Ali la voit faire, il ne peut s'empêcher de rêver que ce soit sur lui que se posent les mains et les lèvres de cette femme. Depuis qu'il a une chance de la croiser, il passe de plus en plus fréquemment à l'épicerie, sans vouloir s'avouer les raisons de sa présence accrue. Il l'attribue à l'amitié de Hamid pour Annie et aux bienfaits que celui-ci pourra en tirer. Alors que les garçons du village se déchirent le corps aux épines et aux rochers de la crête, Hamid joue calmement avec une petite Française qui le traite d'égal à égal. Ali pense simplement, avec mauvaise foi, qu'il œuvre pour le bien de son fils quand il l'emmène à la boutique pour y retrouver la fillette. Claude ne se plaint jamais de leur visite, au contraire, il les reçoit avec joie et se propose toujours de garder le petit garçon quelques heures. Quand Michel, Annie et Hamid se trouvent avec lui dans l'épicerie, Claude se sent bien. Il se dit qu'ils forment ensemble une tribu étrange, une négation de sa solitude et de son veuvage. Il parle de Hamid à son entourage comme ce petit arabe que nous avons quasiment adopté. Yema se grifferait le visage si elle l'entendait proférer une ineptie pareille. Mais Claude, qui n'est jamais monté sur la crête, peut imaginer que le garçonnet a besoin de cette nouvelle famille qu'il a décidé de lui donner. L'affection du commerçant pour Hamid ne parvient pas à briser l'un des interdits tacites de la société coloniale, la séparation du domaine public et du domaine privé. C'est toujours dans l'épicerie que l'on accueille le petit garçon et son père, jamais dans l'appartement au-dessus, ou bien juste le temps qu'Annie monte y chercher un jouet. Et la chose se répète dans tout le pays à diverses échelles. Si les différentes populations qui l'habitent se croisent, se parlent, se connaissent, c'est au détour d'une rue, devant l'étalage d'un magasin, aux terrasses de certains cafés, mais ce n'est jamais, ou très rarement, dans la sphère domestique, l'entre-secret du foyer qui demeure strictement communautaire. Claude aime peut-être le petit garçon comme un fils, ainsi qu'il le dit, mais son amour ne s'épanouit qu'au rez-de-chaussée. Là, dans la boutique, il apprend à Hamid quelques mots de français pour qu'il puisse saluer les clients qui rentrent. « Bonjour !» lance le gamin comme si c'était le cri d'un animal fabuleux chaque fois que quelqu'un passe la porte. Les réactions sont diverses. « Vous n'avez pas peur ?» demande un jour une cliente qui le voit jouer avec Annie. « Peur de quoi ?» dit Claude. Ben, pour des raisons d'hygiène. Déjà, hésite la cliente et puis il pourrait l'enlever. Mais il a 3 ans. Claude éclate de rire. La dame, non. Pour elle, les Arabes, comme les animaux, se développent à une vitesse supérieure à celle des Français. À 3 ans, un félin peut chasser, se nourrir seul, se reproduire. Elle ne jurerait pas que les Arabes en font autant. Mais tout de même. Vieille peau, dit Michel quand elle sort. Au revoir, crie Hamid. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Alice Zénitaire que nous retrouverons demain pour la suite. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.